RCF, les grands entretiens d'Éric Rouillet.
Stéphane Froidevaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre invité dans la collection des grands entretiens sur RCF. Vous rejoignez une famille illustre de vignerons, de musiciens et de philosophes, puisque dernièrement, nos invités étaient Robert Villaine et le professeur Pierre Magnard, Grand Prix de philosophie de l'Académie française, et nous fêtions ses 94 ans. Vous êtes invité parce que vous êtes le seul chef étoilé sur Grenoble aujourd'hui. Vous êtes un très grand chef, et je voulais avoir un peu un aperçu de ce qu'est votre vie professionnelle et éventuellement un peu plus de ce que vous êtes vous-même. Cette étoile, passer le moment d'euphorie, le moment de brillance, le feu d'artifice de l'annonce, aujourd'hui, au quotidien, est-ce qu'elle brille? Est-ce qu'elle scintille encore quelque part? Et est-ce qu'elle vous aide à avancer? Ou est-ce que quelque part, c'est un passage, mais vous ne pouvez pas considérer cela comme une consécration?
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, cette étoile, elle nous accompagne. Elle vient confirmer tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ce travail où on recherche toujours l'excellence, la beauté de ce métier, la création... C'est une grande, grande richesse et elle est là. Et aujourd'hui, elle est derrière nous, comme au-dessus de notre tête. Et elle nous rappelle tous les jours qu'on a des devoirs. On doit continuer ce travail, on doit progresser, on doit créer, on doit aller plus loin dans ce métier.
Par rapport à votre équipe, est-ce qu'une étoile, ça resserre, ça soude, ça apporte quelque chose? Le regard du chef sur son équipe et le regard de l'équipe sur le chef ont changé? Ça a bousculé un peu les choses?
Dans un premier temps, je dirais que l'équipe est très très fière de partager ce moment. C'est un échange, c'est un partage, parce que sans l'équipe, on ne peut pas aller chercher l'étoile. On est plus fort avec l'équipe. Et du coup, ça soude l'équipe. Et je dirais que pour avancer, pour progresser, eh bien, ensemble, on est plus fort.
Une étoile, ça peut être, suivant la sensibilité d'un chef, ça peut être une contrainte, où le chef peut se dire, voilà, j'ai une étoile, mais je ne veux pas la perdre. Ou ça peut être un tremplin pour se libérer et aller ailleurs, aller plus loin. Et vous, quelle est votre position par rapport à ça?
Moi, ma position, aujourd'hui, j'ai bientôt 50 ans, et je ne veux pas me mettre la pression avec cette étoile. Elle vient justement confirmer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, je veux avant tout continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais, à être bienveillant avec mes équipes et avec mes clients. Et je veux pouvoir aussi transmettre. Ça, c'est très, très important, la transmission, parce que ça fait partie de notre ADN en France. On va continuer à travailler, à progresser et aller plus haut.
Vous avez déjà eu une étoile avec un restaurant qui s'appelait l'Antidote. Vous êtes venu dans la ville, à Grenoble. Et après, ça fait 14 ans, je crois, que vous avez le Fantin La Tour.
Ça fait 14 ans.
Et donc, vous venez de réavoir une étoile. Alors, elle ne s'additionne pas, hein, vous n'avez pas deux étoiles. Mais vous avez abandonné une certaine façon de cuisiner quand vous êtes venu à Grenoble. Est-ce que c'est une cuisine un peu plus obligée, un peu moins artistique, un peu plus contenue? Et est-ce que cette étoile, finalement, à Grenoble, ne va pas vous ramener à votre cuisine initiale? Vous ne pouvez pas vous dire, voilà, j'ai l'étoile à Grenoble, mais finalement, c'est comme si elle prenait la relève de l'Antidote. Et je veux peut-être me reprojeter dans ce que j'avais envie de faire.
Alors, tout à fait, je dirais qu'aujourd'hui, ma cuisine a démarré là-haut, en montagne, à l'Antidote. C'était une cuisine d'émotion, c'était une cuisine tournée sur la nature, sur l'environnement. Je racontais vraiment des histoires sur chaque plat. Il y avait un certain nombre d'éléments naturels dans les assiettes. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés en ville, on nous a expliqué qu'il fallait faire quelque chose d'un peu plus conventionnel, c'était un peu plus cloisonné. Et du coup, on s'est adapté. Quelque part... au fond de moi, eh ben, aujourd'hui, avec l'étoile, j'ai envie de retrouver mes premiers amours, pas en quittant Grenoble, en restant à Grenoble, mais en faisant ces plats, qui étaient mes plats coup de cœur, qui étaient des plats chargés d'émotions, de transmission. Je vais les remettre au goût du jour, parce qu'on sortira la nouvelle carte, et tous ces plats seront là.
Vous parlez, comme les vignerons que nous avons l'habitude de recevoir, vous parlez d'émotions, de transmission, de patrimoine, de racines, et c'est exactement les mêmes termes que le monde viticole. On pourrait presque interchanger les personnages et faire parler un vigneron, et il aurait les mêmes propos. Par rapport à votre cuisine et aux personnages que vous représentez, je m'interroge souvent et je me demande si vous préférez les légumes et le potager ou les plantes et la botanique. Parce que ça, c'est une grande question que je me pose souvent. Vous avez une réponse?
Alors moi, je dirais que les légumes, le potager, c'est les racines paysannes de mes parents, parce que mes parents étaient agriculteurs. et on consommait que les légumes du jardin. Donc j'ai cet ADN-là. Et j'irai les plantes parce que quand nous sommes arrivés en montagne dans les années 80, et ben, tous les week-ends on était en montagne, on ramassait des baies, on ramassait des fleurs tout au long de la saison. Tout ce que la nature pouvait nous donner, on le ramassait pour ensuite s'en servir plus tard dans l'hiver ou dans l'été.
On demande souvent les saisons préférées. Les vôtres sont liées à l'odeur de la montagne, sont liées à ces plantes, ou sont liées aux légumes, ou au soleil, ou aux nuages, je ne sais pas. Mais avez-vous des saisons préférées ?
Ma saison préférée aujourd'hui, c'est l'automne. Parce que je dirais qu'avec les changements climatiques, c'est encore la saison la plus stable, où on peut vraiment, quand on est en montagne, on peut être en harmonie avec les paysages, avec le ciel, avec les mouvements, avec les couleurs. Il y a quelque chose de très apaisant. On est bien, on est serein, on est apaisé. Dans ce monde, je dirais, très intense,
oui,
où tout va très vite, et bien quand on est un petit peu dans le recul, au milieu de cet univers-là, on est vraiment très très bien.
Alors, je sais que vous cuisinez l'été en bas du col du Lautaret.
Oui.
En pleine nature, au bord des rivières. Et je vous ai vu avec votre frère aller ramasser des plantes, cueillir, presque dans les plateaux, dans cette ivresse des espaces. Je me demandais, quand vous retournez dans votre restaurant, dans vos quatre murs, vous êtes à l'étroit. Comment vous assimilez cette réduction d'espace pour aller cuisiner, alors que vous aimez le grand large ?
Alors moi, j'adore le grand large et j'en ai vraiment besoin. C'est pour ça aussi que toutes les semaines, je passe entre 5 et 7 heures en montagne, soit le matin, soit le soir, parce que ça, je me régénère. Après, j'ai bien conscience que le reste de ma semaine est rythmé de façon très intense, que nous sommes un petit peu cloisonnés, c'est figé, et on rentre dans un moule où on doit faire bonne figure, où on est régi par un cadre, une législation, et on doit obéir à certains protocoles.
Et alors, on pourrait presque dire que dans votre cuisine, vous essayez de transposer le goût de la montagne. C'est possible ?
Oui, oui, oui. Alors moi, je le fais parce qu'on parle de transmission. Et j'ai un plat, par exemple, que je peux vous expliquer si vous avez deux minutes là maintenant. C'est au mois d'octobre, une fois de plus. Je pique-nique avec mes parents, on est en montagne avec mes enfants. Et j'apprends à faire les ricochets sur un lac de montagne à mon fils. Et là, d'un seul coup, je me rends compte que mon père, il y a quelques dizaines d'années, c'est lui qui m'a appris en fait à faire les ricochets. Et du coup, est né un plat qui s'appelle les ricochets de Saint-Jacques. Et on a retrouvé une assiette creuse avec le lit de la rivière, les galets, les Saint-Jacques posés dessus, quelques feuillages qui tombent sur le lac l'automne. Et en fait, c'est de la transmission. Et quand on explique cette histoire, ce plat, à nos clients, mais pour eux, ça les renvoie à leur enfance.
Oui, et puis ça crée une attention particulière.
Et ça crée une attention particulière et ça fait beaucoup d'émotions.
Alors, puisque vous parlez de transmission, là vous parlez de par rapport à vos parents, à vos enfants, que pensez-vous de cette starisation de votre métier avec cette épidémie d'émissions télévisées, Top Chef et compagnie, où on crée des chefs comme ça en 3 mois comme des pochettes surprises ? Là, on est dans la rupture de la transmission. On est dans l'épiphénomène qui devient un phénomène majeur et où il n'y a plus rien, il n'y a plus de métier derrière. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de mettre en avant la gastronomie, mais qui pour moi est artificielle et sans fondement, ou est-ce que c'est une entrave et quelque part ça vous pose un problème ?
Alors, dans un premier temps, je dirais que c'est bien pour le métier parce que ça met en lumière le métier. Après, moi, avec le recul et les années qui sont là, j'ai envie de dire que quelque part aujourd'hui, moi, j'ai besoin de ces bases, de ce métier. Et qu'ensuite, c'est des bases qui ont été transmises de génération en génération. C'est le patrimoine français. Et on a un devoir, c'est de transmettre ce que nos pères nous ont appris. Quand je vais au Albocuse et que vous voyez sur les fresques en hauteur, avec la mère Brasier, la mère Poularde, avec toutes ces femmes qui étaient là en cuisine, avec toutes ces marmites qui mijotaient, pour moi, ça me parle. C'est la transmission, c'est l'émotion, c'est le cœur. Et faire la cuisine avec le cœur, c'est vraiment mettre beaucoup de saveurs, beaucoup d'arômes dans ce qu'on fait. Et les gens, ils le ressentent. Donc cette cuisine-là de starisation de jeunes est très éphémère, mais les gens ne se trompent pas. Je veux dire, parce que quand ils vont au restaurant, à un moment donné, ils savent faire la différence entre les gens qui cuisinent vraiment avec le cœur.
Stéphane Froidevaux, chef étoilé sur Grenoble, l'unique chef étoilé, nous écoutions un fragment d'une sonate pour piano et violon de Mozart. Un fragment parce que Mozart composait, c'était un génie, mais il avait faim et il avait besoin de gagner sa vie. Et quand, dans ses compositions, quelqu'un venait le solliciter en lui commandant une œuvre, il mettait de côté ce qu'il était en train de faire pour pouvoir percevoir un salaire et nourrir sa famille. Et quand il est mort, on a redécouvert des tas de fragments, des trios, des sonates. Et on va écouter là ce fragment qui a été fini d'être composé par Robert Levin, qui est un musicologue, un compositeur, un interprète de génie, qui a d'ailleurs été notre invité. Et il a fini ce fragment, on va en écouter 4-5 minutes, et il l'interprète avec Gérard Poulet. Donc la sonate, une version possible, une option que Robert Levin a choisie pour achever ce fragment. Et vous, Stéphane Froidevaux, comme chef, est-ce qu'il vous arrive, alors je ne vais pas vous faire le jour ou la grande joie de vous traiter de Mozart de la cuisine, mais est-ce que il vous est déjà arrivé d'initier un plat, d'élaborer une construction de quelque chose qui est resté à l'état fragmentaire, un peu comme a fait Mozart, un grand plat que vous aviez dans la tête, que vous avez commencé à élaborer, mais que le quotidien vous a empêché de développer par ses servitudes, et que vous avez dit, ben, je remettrai ça plus tard, et peut-être quelques mois, quelques années après, les choses en gestation se sont développées, et vous êtes revenu. Est-ce que ce processus, très musical par rapport à Mozart, qui était lié à des obligations, est-ce que vous, le cuisinier, vous connaissez ce genre de problème ?
Oui, moi je connais ce genre de problème, et j'ai un plat qui me vient tout de suite à l'idée, qui est le velouté petit marron. Ça fait 12 ans que je le fais, et il m'a fallu presque 10 ans pour le faire évoluer, pour l'améliorer, pour vraiment comprendre comment il devait être dans sa finalité.
Et est-ce que vous êtes arrivé à une version achevée de ce velouté, ou est-ce que vous allez encore le retoucher ?
Pour moi, aujourd'hui, je suis arrivé à une version finale.
Oui.
Mais il y a eu 10 ans qui se sont passés, parce que en fait, avec les légumes, chaque année, le légume est différent, il vit le légume. En fonction de la météo, en fonction du climat, il n'aura pas la même densité d'eau à l'intérieur ou de structure. Donc une recette que vous avez une année, l'année d'après, c'est pas du tout la même.
Oui, vous ne pouvez pas transposer systématiquement une recette, même si elle est écrite de la même façon, vous allez l'interpréter différemment.
Exactement.
D'accord. Alors je précise que votre velouté, au petit moment, est mon plat préféré, vous le savez.
Oui, je sais.
Mais je ne connaissais pas cette histoire.
Je sais, parce que quelque part, on goûte, on mémorise, et très souvent, nous, on a dans notre tête le goût du plat final, et on ne maîtrise pas, c'est le processus pour y accéder.
La construction.
La construction. Et des fois, ça peut durer plusieurs années.
Vous savez que en musique, la mode est aux clowneries, aux singeries, à l'exubérance, les pianistes font des grands gestes, des sauts périlleux, les violonistes, ça joue, il faut faire pleurer la foule. Est-ce que un chef peut également prendre en otage sa cuisine pour montrer ses grandes capacités techniques. Est-ce que ça, c'est une tentation, ou est-ce qu'il faut s'en protéger et trouver un équilibre? Parce que malgré tout, l'amateur qui vient dans votre restaurant, il a aussi des nécessités. Et comment vous arrivez à les rendre mitoyennes avec vous, vos priorités?
Ouais. Alors, je pense que ça, après, ça dépend de la sensibilité du chef. Il y a certains chefs qui ont besoin de se lâcher physiquement, de montrer...
D'exhiber un peu.
D'exhiber leur passion, leur univers, pour que les gens adhèrent ou comprennent. Et puis il y en a d'autres où c'est beaucoup plus intérieur. Ils voient des choses qu'ils vont retranscrire dans une assiette, et il va y avoir quelque chose de beaucoup plus beau, je veux dire, de solennel dans la construction de l'assiette. Donc chaque chef, je dirais... à une façon différente de mettre en exergue ces sensations.
Oui, mais vous, par exemple, j'ai posé la question différemment. Si je vous demande de me citer un plat qui, pour vous, représenterait dans votre cuisine le charme, l'exubérance et les plaisirs les plus immédiatement accessibles, un plat très bon, mais un plat que vous ne revendiquez peut-être pas profondément. Dire voilà, je vais faire plaisir dans la facilité.
Je comprends.
Ce plat ressemblerait à quoi ?
Moi, tout simplement, je dirais une blanquette. C'est pas ma cuisine, c'est pas mon univers, mais la blanquette, j'ai mis peut-être 10 ans pour comprendre le processus, comment ça fonctionnait, les carottes, les champignons, la viande. Et aujourd'hui, je suis capable de la faire pour qu'elle soit... Moi, j'ai des gens qui viennent la prendre le dimanche, ils me disent, ça me rappelle la blanquette de ma grand-mère. Et là, ça me fait vraiment plaisir. Et en fait, j'ai réalisé un plat qui pour moi n'est pas du tout dans mes critères ou dans ma cuisine ou dans mon ADN, mais je l'ai fait parce que on le fait avec plaisir, avec amour.
Pour vous rapprocher.
Pour se rapprocher du client.
Alors, une autre question, puisqu'on parlait du charme et de l'immédiatement accessible, quel est le plat silencieux, le plat inexpressif, introverti, qui pourrait représenter votre art, l'art du silence, le grand plat?
J'en ai un, mais que je faisais là-haut à l'Antidote, et j'espère pouvoir le refaire cet hiver. En fait, c'est une boule de neige avec une paille de berce qui ressort. Et quand on présente le plat, on dit qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est qu'est-ce qui se passe sous la neige d'hiver ? Qu'est-ce qui se passe sous la neige d'hiver ? Et là, d'un seul coup, le client, il imagine plein de choses. En fait, c'est le sous-bois, c'est la truffe, c'est les champignons. Et visuellement, il voit une boule de neige, donc il imagine quelque chose de glacé. Et quand il va déguster avec la paille, ça va être chaud. Donc en fait, on joue sur plusieurs sens. Et ça met en éveil plein de choses dans la tête.
Alors là, on dépasse le goût. On est presque dans une sorte de... C'est un mot à la mode, mais on est une sorte de quête spirituelle. On n'est pas loin, là.
On peut dire qu'on est dedans, mais moi, c'est ma cuisine, c'est ce que je recherche. Avant tout, le goût, il y a le visuel, il y a plein de sens qui se développent. On s'amuse, on joue. La cuisine, c'est très vivant, c'est le plaisir, c'est donner du bonheur, c'est de faire rire les gens. C'est ça, la cuisine aussi. Les gens, ils se retrouvent autour d'une table, ils sont là pour passer un bon moment, pour rire, pour être heureux. La vie est vachement dure aujourd'hui. La vie est compliquée. Tous les gens sont stressés, énervés, ils ont les pensées ailleurs. Et là, on se retrouve autour d'une table. La table, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est la joie. Quand j'entends des gens rire autour de la table, ça me rend heureux. Mais ça me fait plaisir.
Vous estimez que vous exercez un métier de privilège?
Oui.
Pour pouvoir donner aux autres des moments de bonheur, de les arracher à cette vie que vous signalez assez difficile. Et vous leur offrez ça, ces petites parenthèses.
Moi, je suis là pour leur offrir ça. Pour moi, c'est rendre heureux les gens, c'est ce qui est le plus important. Donc, j'essaie de mettre le plus d'amour possible dans ma cuisine, dans le travail de tous les jours. C'est une cuisine qui est faite avec le cœur, avec l'émotion. Ça, c'est difficile à transmettre parce que chaque personne a un cœur différent. Autant de fiches techniques, vous donnez la fiche technique, vous allez la réaliser. Par contre, l'émotion, c'est quelque chose de très personnel, je veux dire. C'est quelque chose qui est enfoui. Et moi, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. Ma mère m'a transmise cette cuisine généreuse, cette cuisine du goût, cette cuisine de tous les jours, cette cuisine paysanne. Et moi, j'ai envie de la mettre en avant.
Alors, vous savez qu'on reçoit régulièrement des philosophes, des vignerons, des musiciens. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord, à part avec les vignerons, sur la différence entre le plaisir et l'émotion. Alors avec les vignerons, c'est facile, parce que on peut signaler le plaisir avec un vin simple, on le met en bouche, on est content, on l'oublie. Et un grand vin, ça serait un vin qui procure l'émotion, qui laisse une trace en nous, une mémoire. Mais vous parlez beaucoup d'émotion.
Ouais.
Et le mot plaisir, vous le mettez un peu en arrière. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que l'émotion est supérieure au plaisir pour vous?
Pour moi, l'émotion est vraiment, vraiment supérieure au plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qui est pour moi dans l'instant T, alors que l'émotion, c'est quelque chose qui est au fond de nous. Bon, je reviens encore sous ce velouté de Potimarron. La différence entre le plaisir et l'émotion, c'est que toutes les 5 minutes, on vient, on caresse, on surveille, on sent, on lui parle. Je veux dire, quand je fais un fond blanc, un bouillon de poule dans ma cuisine, j'ai ma main posée sur la casserole et je lui parle. Alors quand j'explique ça à mes cuisiniers, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, mais c'est cet échange, cette émotion qu'il peut y avoir, et ben, c'est ce qui va faire que ça va être très très bon.
Mais c'est beaucoup plus exigeant de transmettre une émotion que de cuisiner simplement pour faire plaisir.
On est complètement d'accord. Transmettre des émotions, c'est compliqué parce que il faut que cette personne qui soit en face de vous ait aussi...
Les capteurs.
Soit capteur de ses émotions et aussi une enfance ou quelque chose de chez lui qui va permettre de comprendre ça.
Et alors, vous ne vous sentez pas un peu seul dans vos cuisines parce que vous n'avez pas le contact, vous n'avez pas l'immédiateté avec vos clients. Vous ne les voyez pas. Et est-ce qu'il n'y a pas un sentiment un peu biaisé parce que vous aimeriez avoir en direct les gens? Alors, vous avez le retour de vos équipes.
J'ai le retour de mes équipes. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais qu'il n'y ait plus de mur entre les clients et moi. Mais j'arrive à le faire sur mes cours de cuisine où je transmets vraiment mes émotions. Et là, ça marche très très bien. Les gens, en fait, le cours démarre à 9h30, finit à 11h30. Je pourrais les garder jusqu'à 17h. C'est tellement je suis dans la passion, dans la transmission, dans l'émotion. Et c'est ça qui est vachement important. Et on transmet beaucoup plus de choses comme ça que si vous mettez une simple fiche technique.
Stéphane Froidevaux, nous arrivons déjà au terme de notre émission. Je vous remercie d'être venu nous voir. Premier chef invité au milieu de cette pléiade de grandes personnalités. Et nous allons nous quitter avec Mozart, un petit bout de fragment qui a été achevé de composer par Robert Levin. Et comme ça, maintenant je saurai qu'il faut penser au velouté de Potimarron.
Merci à vous. Merci. Thank you.